Une fois que vous êtes en mouvement, vous recréerez de l'espoir chez vous et chez les autres.
Si on ne garde pas un océan propre, ça ne va pas fonctionner pour l'être humain.
On peut changer le monde à son échelle. Cet engagement peut devenir exponentiel.
Impact positif. Sylvia Micon.
Bienvenue à toutes et tous. Une seule promesse pour ce podcast, partager le parcours de personnes inspirantes. Qu'ils soient entrepreneurs, simples citoyens, artistes, scientifiques, ils ont un impact sur la société, sur l'environnement. Ils agissent, ils font, ils ont des solutions. Les voici.
Moi, je n'ai jamais lancé Plogent pour gagner de l'argent. C'était pour moi davantage un moyen d'expression qu'un business. Alors évidemment, par définition, les financiers, actionnaires financiers, ben, ils veulent que ça rapporte de l'argent et c'est leur objectif. Ce n'était pas le mien. Il fallait évidemment que ça soit rentable, sinon ça se casse la figure, mais on n'avait pas tout à fait le même objectif.
Quelques mots qui résument bien l'état d'esprit qui a traversé la carrière d'Alain Cojon. Pour lui, pas d'entreprise sans redistribution. Il nous explique le modèle incroyable qui a prévalu pendant près de 20 ans. Il a quitté l'aventure il y a quelques années, mais entrepreneur dans l'âme, il le reste. C'est ce qu'il nous raconte dans cet épisode. Impact positif, c'est parti, un diamo. Alain Cojon, bonjour.
Bonjour Sylvia.
Et merci beaucoup de participer à Impact Positif. Vous êtes le fondateur des restaurants Cojon, qu'on connaît bien en France. Il y avait 35 adresses à Paris et à Londres quand vous avez quitté l'entreprise. Vous avez inventé la restauration rapide de qualité et vous avez ouvert la voie à une kyrielle d'autres restaurants qui se sont engouffrés dans la brèche aujourd'hui. On peut dire que vous avez eu un sacré coup d'avance. En cela, vous êtes vraiment un pionnier de la restauration. Ce que l'on sait, moi, c'est que vous donniez chaque année une partie, vous donnez encore d'ailleurs chaque année une partie de vos bénéfices à chaque année un pourcentage constant, 10% pour financer des projets dans l'aide à l'alimentation, l'accès à l'eau, la lutte contre la pauvreté et l'injustice. Vous le faites en toute discrétion, c'est presque par hasard hein, qu'on apprenait en allant chez Cojon que vous faisiez tout ça. Il fallait être très attentif à lire sur les serviettes ou les tickets de caisse. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez vendu vos parts hein, chez Cojon, près de 20 ans après le lancement, mais vous avez d'autres projets dont on va parler, puis vous avez raconté votre parcours hein, jusqu'au deuil de votre mère dans un livre paru aux éditions Mama qui s'intitule « Nourriture céleste », un livre sincère, sans fioriture, dans laquelle on découvre la singularité de votre démarche avec Cojon, mais aussi tout le reste, hein, votre fondation Nourrir, Aimer, Donner, vos convictions sur la vie après la mort aussi. Ce livre, vous le dites, vous l'avez écrit pour réconforter les personnes qui ont traversé un deuil comme vous. Mais tout d'abord, Alain Cojon, on dit de vous que vous êtes un patron hors norme, un ovni. Ça vous fait quoi d'entendre ça?
Alors effectivement, je l'ai entendu plusieurs fois. Que dire?
Ça vous fait plaisir?
Non. En tout cas, j'aurais pas pu faire autrement mon chemin. Alors, s'il est qualifié d'hors norme ou un peu atypique, peut-être, mais c'était pas un choix, j'aurais pas pu faire autrement. Voilà.
Vous étiez comme ça?
Oui.
En tout cas, rien ne vous prédestinait à devenir chef d'entreprise. Hein. Votre père est notaire, vous ne venez pas d'un milieu entrepreneurial. Comment expliquez-vous finalement votre parcours? C'est le hasard?
J'ai fait des études de droit, j'ai passé un diplôme de premier clerc de notaire. Le notariat ne me passionnait pas. Mon père était notaire. Et donc j'avais suivi ce cursus, mais sans vraiment passion. Et bon, j'ai été jusqu'à ce diplôme de premier clerc. J'ai à un moment donné, j'ai tourné la page puisque j'ai laissé tomber le notariat et j'ai démarré une nouvelle vie. J'ai démarré serveur chez McDo, plongeur serveur. Bon, notariat c'était terminé. Je m'ennuyais beaucoup et puis ça me faisait pas
vibrer.
Non, ça me faisait pas vibrer. C'est pas un mauvais métier, mais je rêvais d'autre chose en fait. Mmh. Et donc j'ai démarré chez McDo comme serveur. Et puis j'ai grimpé, comme on dit, les échelons. J'ai passé pas mal d'années chez McDo. Mais c'est marrant parce que j'ai beaucoup aimé cette entreprise. Alors évidemment, ma vie maintenant a complètement changé. Oui. Complètement, je suis végétarien. Tout a changé.
D'ailleurs, c'est le grand écart, Alain Cojon. Parce que quand vous avez quitté McDo, c'est vrai que vous êtes resté 15 ans.
Oui.
Comme vous le disiez, vous êtes allé, vous étiez patron de la recherche et développement chez McDo. Quand vous avez quitté McDo, c'était pour ouvrir Cojon.
Oui.
C'est complètement à l'opposé.
Oui, mais c'était pas. J'ai pas fait ça en me disant tiens, je vais prendre le contre-pied, je vais faire l'inverse. Quand j'ai quitté McDo, je me souviens, je me disais toujours, mais tiens, j'avais déjà envie d'entreprendre. Et je me disais toujours, la même question que je me pose encore 20 ans plus tard, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour le mieux ? C'était toujours cette question, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ben, évidemment, des bons produits, je ferai en sorte que les gens soient très heureux, le plus épanouis, le plus heureux possible au travail. C'est comme ça qu'est venu, et puis j'aimais bien la restauration, c'était mon métier. Mmh. Mais c'était pas je cherchais pas le contre-pied avec McDo.
C'était la suite.
Mmh. Voilà.
Et alors Cogent, ce sont des produits frais, bio, de qualité. D'ailleurs, vous avez été le premier acheteur d'herbes fraîches à la place de Paris.
Oui, c'est vrai.
Ça dit quelque chose quand même, ça. Qu'est-ce que vous avez appris chez McDo qui vous a servi chez Cogent?
Écoutez, c'était assez rigoureux. Il y avait à la fois du fun, c'était sympa, j'allais au boulot assez heureux, il y avait du fun, et c'était rigoureux. Oui, ça, peut-être ça m'a apporté ça, certainement. Et surtout McDo, puisqu'on en parle, ça quand même, il y a eu un déclic pour moi, parce que le premier jour, quand je démarrais mon job, j'étais serveur. Et je me rappelle de ce premier jour, un 1er avril, j'étais au poste, on appelle ça le lobby, c'est débarrasser les plateaux, vider les poubelles, etc., nettoyer les tables. Et je me souviens que mon directeur à l'époque, ça remonte à très longtemps, en plein rush, enfin pendant la période de pointe, il m'avait fait signe comme ça, il me dit « tu viendras me voir après le rush ». Je dis « merde ». Je me dis « qu'est-ce que j'ai pu faire ?» Parce que j'étais vraiment à fond, j'étais très appliqué, je pouvais pas aller plus vite. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce que j'ai pu mal faire? Et quand je suis arrivé après ce fameux rush, il m'a dit chapeau. J'ai jamais vu quelqu'un si, je sais pas s'il a dit si speed ou peut-être pas efficace, mais il a dit j'ai jamais vu quelqu'un comme toi au lobby. Et d'entendre ce mot là, chapeau, alors que pour moi c'était un petit job alimentaire, McDo, je pensais pas rester toutes ces années, c'était un petit job pour quelques mois, 6 mois peut-être, en attendant de faire autre chose. Et quand j'ai entendu ça, je me dis merde, je crois que c'était la première fois qu'on me complimentait. Et ça m'a donné la pêche. Et c'est étonnant, hein. Il y a eu un déclic.
Oui, parce qu'on va y revenir. Effectivement, vous avez eu un père assez sévère, hein, qui était quand même très regardant sur vos bulletins scolaires, mais vous avez eu une mère plutôt aimante qui vous encourageait beaucoup. Quand
oui,
même.
Ma mère était. Ma mère était faite que de bonté, de gentillesse, de bienveillance. C'était un modèle de bienveillance. Elle était, faite que de bonté. C'est un modèle pour moi. Mm. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un, toujours positif. Je n'ai jamais entendu quelque chose de négatif.
Vous avez gardé en tout cas ce côté positif bien ancré en vous. Vous racontez votre façon de manager chez Cogent. Chez vous, l'ambiance, elle était incroyable. Pas de turnover ou très peu. Des collaborateurs heureux de venir, d'être là, de la confiance, de la bonne humeur, peu de hiérarchie. Ça paraît trop beau pour être vrai. Comment avez-vous fait pour maintenir cette ambiance? Et puis surtout, d'où est-ce que ça vous vient?
En fait, encore une fois, j'ai fait ça pendant 20 ans. Là, je voulais que les gens soient le plus épanouis possible. C'était mon objectif. Donc, dès que j'ouvrais un œil le matin jusqu'au moment où je m'endormais, c'était ma priorité, que les gens soient heureux au boulot, soient détendus, soient épanouis. Et ça a été le cas. Mmh. Pendant 20 ans, ça a été... Je le dis souvent et j'ai honte de le dire, c'est au niveau humain, ça a été un état de grâce. Les gens s'entendaient tellement bien. C'était une famille. Mmh. Ils s'appelaient d'ailleurs, souvent ils signaient Cogent Family. C'était vraiment. Il y a eu une sorte d'état de grâce au niveau humain pendant toutes ces années. Et ça a été magnifique.
Puis vous êtes resté aussi dans vos restaurants, parce que même si vous étiez tout au-dessus, vous alliez chaque midi, hop, vous mettiez le tablier et vous alliez servir.
Oui, tous les jours de ma vie, j'étais sur le terrain avec. Avec eux, il y avait pas de différence, sincèrement, entre un directeur général et le gars qui fait la plonge ou qui sert en caisse. Je ne voyais même pas la différence. Je me disais souvent, oui, j'ai simplement deux fois leur âge, c'est tout. Mmh. La plupart sont plus diplômés de moi, je suis juste plus vieux, c'est tout.
En tout cas, vous racontez aussi que vous n'avez presque pas eu de problème de recrutement, finalement, parce que toutes les personnes qui venaient à vous, presque, elles étaient formidables.
Oui, alors j'ai privilégié l'interne pour la promotion. Donc la plupart des gens du siège sont des gens qui ont démarré serveur, comme moi d'ailleurs, la plupart. Alors évidemment, à la compta, il faut un comptable de métier, aux achats aussi, ça ne s'improvise pas, mais la plupart des postes, c'était des gens qui ont démarré à la base et que j'ai fait grandir. Mmh. Et c'était merveilleux comme ça. On n'a jamais été, pas une seule fois, on a été chercher un directeur de restaurant dans une autre enseigne, par exemple. Jamais. On faisait grandir les gens.
Mmh. Et vous le rendez bien
Oui. Oui. Mmh.
On comprend mieux aussi, quand on lit votre livre, votre façon de manager. Hein. Vous avez retenu plusieurs choses de votre enfance. Hein. Vous n'étiez pas un bon élève à l'école. Hein. Il faut donner confiance, hein. Il ne faut pas démolir. Vous insistez aussi sur la force des mots. Hein. Quand on dit à quelqu'un « tu es nul », eh ben, il a de grandes chances de le devenir.
Oui, absolument. Je suis convaincu de ça. C'est vrai que dans le livre, je parle à un moment de mon prof d'anglais, qui était terrible, il faisait très très peur. On était terrorisés, tous. Et je me souviens, effectivement, c'est vrai que j'en ai parlé, que dès les premiers jours, c'était en sixième, bon, on avait 11 ans peut-être, 11, 12 ans, puis il avait hurlé, « Cojan, t'es nul, ton frère t'es bon, mais toi t'es nul. » Résultat, je suis nul en anglais. Enfin, j'arrive à me débrouiller partout où je vais à l'étranger, mais je suis incapable de lire un livre en anglais. Je pense qu'effectivement, les mots ont une importance capitale. Comme le mot chapeau, mine de rien, c'est deux syllabes, chapeau. Ça vous a changé la vie. Ça m'a donné confiance. Je me dis, tiens. Mmh. Et puis voilà, paf, c'était parti. Mmh. Et en tant que t'es nul, en fait, je pense que quand on critique comme ça, je pense qu'on peut le devenir, en tout cas. Je disais que pendant ces fameux cours d'anglais, j'essayais pas d'apprendre, j'essayais d'éviter l'engueulade. Tous les cours, je me dis, bon, faut pas que je me fasse repérer, sinon il va me balancer sa craie, s'il adorait faire ça. Et donc, voilà, je me dis, les mots ont une importance dans un sens ou dans l'autre. Mmh.
D'ailleurs, vous ne vous êtes pas laissé faire, parce que quelque part, vous lui avez donné une bonne leçon. Vous avez repeint sa voiture en rose. Ah
oui, bon. Vous
êtes bien rangé.
Alors, je précise, c'était de la peinture à l'eau.
Bah oui,
mais
ça
je
va,
me suis fait attraper.
Sans dégâts. Alors, on sent en revanche que vous avez eu plus de mal avec les financiers, hein, ceux qui essayaient finalement pas de détourner votre projet, mais en tout cas de le dénaturer à ceux qui vous ont poussé à vendre. Vous avez toujours eu du mal, ça a toujours été le combat, un combat permanent, j'ai l'impression.
Ça a été, c'était pas simple. Cela dit, parmi les, on appelait ça des fonds d'investissement, des sociétés d'investissement, c'était vraiment pas les pires, c'était des gens corrects. Mmh. Le patron, effectivement, du fonds, là, était quelqu'un de dur, c'est clair, et assez exigeant. Et moi, je n'ai jamais lancé le Cojan pour gagner de l'argent. C'était pas du tout
C'était pas l'objectif.
Ah, du tout. C'était pour moi davantage un moyen d'expression qu'un business. Alors évidemment, par définition, les financiers, actionnaires financiers, ben, ils veulent que ça rapporte de l'argent et c'est leur objectif. C'était pas le mien. Il fallait évidemment que ça soit rentable, sinon ça se casse la figure. Mais on n'avait pas tout à fait le même objectif. Mais donc le patron était assez dur avec moi, assez souvent. Enfin, disons. Parfois, on pouvait avoir des discussions, on pouvait même dîner ensemble et parfois parler d'autres choses, mais c'était très exigeant quand même.
Parce que vous refusiez de développer à tout va ?
Oui, moi je voulais effectivement, vous avez raison, je me disais, deux restaurants par an, c'était mon rythme. Les gens étaient bien formés, on fabriquait les produits, et puis à quoi bon en faire énormément Voilà, deux, c'était un bon rythme. Évidemment, ils auraient souhaité que j'ouvre davantage, mais c'était un rythme qui me paraissait le bon.
Mmh. Alors quand on voit comment ça se passe en coulisses, là, quand on a un modèle un peu original comme le vôtre, on se dit que ça reste très difficile hein, pour certaines entreprises qui veulent suivre peut-être votre trace. Est-ce que ça a changé aujourd'hui ? On parlait en off avant le podcast ne commence de la multiplicité maintenant de fonds à impact. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus facile qu'avant finalement ?
Les fonds, quand j'ai démarré en l'an 2000, de mémoire, les fonds à impact n'existaient pas. Et puis moi-même, je ne savais pas vraiment ce qu'était un fonds d'investissement. Pour moi, un financier, il prêtait de l'argent. En fait, non, il investit, mais j'étais très naïf par rapport au financement. Alors maintenant, effectivement, il y a des fonds à impact et les gens font de plus en plus attention et heureusement. Mais le fond a quand même été, c'est vrai que je parle de la dureté parfois du fond, mais vous voyez, ça fait 20 ans, ils y sont encore. Alors, c'est, parfois, le patron était dur avec moi, évidemment, il aurait souhaité que je développe davantage et d'autres choses encore, et que je ne voulais pas. Mais ils sont quand même restés 20 ans.
En tout cas, ce qui est fou quand on lit aussi votre livre, c'était la conviction que vous aviez quand vous avez lancé votre entreprise. Effectivement, vous disiez que vous n'y connaissez rien, hein, vous n'avez pas fait d'école de commerce. Et quand vous étiez allé voir un ami banquier, vous lui avez dit, voilà, je voudrais monter ça. Et il vous a demandé, vous avez un capital. Vous avez dit, non, j'ai rien du tout. Et vous avez dit, laisse tomber, t'arriveras jamais.
Oui, tout à fait.
Et vous n'y avez pas cru, en fait. Au contraire, vous êtes dit, mais il est quel idiot celui-là.
Je me rappelle à m'être dit, quel con. Ouais. Il n'a pas compris que je vais me lancer.
Le projet, il est déjà là, il existe et je vais le faire.
Exactement, le projet, évidemment, il est.
Vous venez d'où cette conviction que ça allait se faire? Vous n'avez pas de doute?
En fait, non. J'avais la foi. Je me dis, je vais lancer. Je ne savais pas trop comment le faire, bien sûr, mais j'avais la foi dans le projet. Donc, je savais que j'allais le faire. Comment, je ne savais pas, mais je savais que j'allais le faire. Effectivement, je n'avais pas de fonds, j'avais 50 000 francs. Ça fait peut-être ça, 7000 euros, cette fois 749, ouais. Mais je savais que j'allais le faire, et effectivement, le banquier m'avait dit t'as de l'argent? Non, ben alors.
Laisse tomber. Quel regard est-ce que vous posez sur les entreprises à mission, nouveau statut qui existe? Je parlais des entreprises à impact, celles en tout cas qui essaient de plus en plus de lier efficacité économique et impact social environnemental. À Cogent, vous avez été labellisé Bicorp hein, aussi. Quel regard vous posez sur toutes ces entreprises qui émergent de plus en plus?
Par définition, c'est bien, évidemment. Pour moi, si vous voulez, quand je me suis lancé, je voulais que l'entreprise serve à autre, d'où la naissance de la fondation. Je voulais que l'entreprise serve à autre chose que simplement vendre des produits. Je voulais qu'une partie, dès le départ, serve à autre chose. Vous voyez? Donc là, c'était pas. Encore une fois, c'était pas vraiment un business. Et comment dirais-je, l'entreprise à mission, oui, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux.
En tout cas, effectivement, vous, votre objectif, c'était pas juste de vendre des produits, même s'ils étaient de très bonne qualité. C'était aussi d'avoir votre fondation, hein, à nourrir, aimer, donner, pouvoir aider les autres, en quelque sorte, un peu partout dans le monde, aussi en France. Pour vous, pas d'entreprise qui fonctionne sans redistribution?
C'était ce que j'avais en tête avant de me lancer. J'aurais pas lancé l'entreprise s'il n'y avait pas eu un mécanisme de redistribution. Pour moi, c'est un seul et même projet.
Aujourd'hui, si vous deviez parler d'un projet dont vous êtes hyper fier, qui a eu de l'impact, vous parleriez duquel?
Alors le projet. Alors il y a plusieurs projets, mais je parlerai quand même de Choubtaraklet. C'est un projet à Calcutta que j'avais lancé. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Je prenais peu de vacances chez Cogent, parce que je travaillais beaucoup, hein, je travaillais énormément, et je partais rarement en vacances. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un break. Je vais mériter un petit break. Je vais prendre quelques jours de vacances. Et je suis parti, effectivement, à Calcutta. Et j'ai fait deux rencontres majeures sur place. J'ai rencontré un Anglais qui a créé un foyer, une sorte d'orphelinat, en fait. Il a recueilli des jeunes enfants, très jeunes enfants, handicapés pour la plupart. Ils étaient tous handicapés, physiques et certains mentaux, et sourds-muets, sauf un nommé Rajou qui n'était pas sourd-muet. Bref, ça, une première rencontre majeure. Et je rencontre aussi un deuxième garçon, c'était mon petit guide dans les slums, dans les bidonvilles là-bas, un de là absolument formidable, Chobnat. Bref, je passe une quinzaine de jours, d'ailleurs, dans ce foyer, et je remarque que tous les gamins étaient adorables, gentils. Ils venaient tous d'endroits différents, ils se ressemblaient pas, et en même temps, ils avaient un point commun, c'était la gentillesse. Ils étaient tous adorables les uns avec les autres. Et j'étais très, très, très surpris de ça à ce point. Ils étaient adorables. Ils se faisaient sans arrêt du thé pour quelqu'un, pour eux. Ils étaient dans l'entraide. Je regardais ça du coin de l'œil, je me dis vraiment, c'est incroyable. Et le dernier soir, avant mon départ, sur Paris, je dîne avec ce fameux David, là, le fondateur de ce foyer, de cet orphelinat, et je lui dis, David, félicitations, parce que vraiment, ce que j'ai vu pendant 15 jours, c'est extraordinaire. Et il me dit, oui, tu as raison, Alain, c'est vrai que c'est beau, mais tu sais, Je suis un petit peu emmerdé parce que j'ai 57 ans, c'est pas vieux, me dit-il, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'étais plus là? Et parce que les damas n'ont jamais été à l'école, aucune formation. Ils sont toute la journée, ils sont assis par terre. Il n'y a ni table ni chaise là-bas, ils sont sur le carrelage. Ils regardent des matchs de cricket à la télé. Il n'y a aucune activité. Tu te rends compte, je suis vraiment embêté. Et j'étais tellement heureux là-bas à Calcutta. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'étais, je ne veux pas dire sur un petit nuage, mais j'étais heureux, j'étais totalement heureux. Et j'ai dans la, il m'a à peine dit ça que je lui ai dit, oh, tu sais, David, t'inquiète pas, je vais revenir très vite, je vais avoir une idée, je reviens bientôt. Et le lendemain matin, avant de prendre l'avion, je vais dire au revoir aux gamins dans le foyer, et on était tous assis en tailleur dans cette pièce sur le carrelage à boire un thé au lait. Et je leur disais que j'allais partir à Paris. Ils font le signe de la Tour Eiffel, l'avion. On se comprenait comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a une dame indienne qui vient nous mettre une boîte de biscuits sur le sol. Et juste quand j'ai vu faire le geste de la poser la boîte de biscuits, je me suis dit, ça y est, je vais lancer une biscuiterie. L'idée m'est venue comme ça. Parce que je me dis, même les gamins qui sont handicapés, ils arriveront à faire ce geste-là de faire de la pâte.
Ouais.
Ils arriveront à faire. Et quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit, ça y est, c'est, voilà, le projet
était pareil.
Le projet,
il existait.
Exactement, le projet existait. Donc je suis reparti à Paris, je suis revenu. Et
vous avez monté ce projet, effectivement, la biscuiterie, elle existe aujourd'hui.
Oui. Et puis
les biscuits existent.
Oui, on vend des madeleines, des financiers, des cakes, et depuis peu des traumades, petit gâteau breton.
D'accord.
Vous
avez apporté là-bas.
Oui, dans les quelques hôtels et dans des restaurants.
Et vous avez dupliqué aussi le projet dans d'autres pays.
Oui, on a fait un copier-coller au Cambodge.
En tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas l'intention d'arrêter de travailler, hein, loin de là. Vous avez des projets sur le feu. Et je crois que parmi ces projets, il y a l'ouverture d'un restaurant qui permettrait à la fois à ceux qui ont les moyens de manger et à ceux qui n'en ont pas de manger gratuitement. Est-ce que c'est toujours un projet qui...
Oui, alors, c'est absolument, mais ce n'est qu'au stade de projet. Je n'ai pas encore attaqué, j'ai simplement ça en tête. Effectivement, si je me relançais un jour dans la restauration... Je ne me vois pas faire un restaurant classique. Je ferai un restaurant, basé sur l'aide. Enfin. Et je rêverais de ne plus donner 10% du résultat pour des projets, mais 100%. Je voudrais, ça ne serait pas un non-profit de restaurant, mais, parce qu'il faut du profit. Mais en tout cas, tous les profits seraient redistribués. Ça, c'est mon rêve. Si je fais un projet, ce sera dans ce sens-là, effectivement.
Et vous y travaillez actuellement, enfin, c'est tout
oui,
ça.
Oui, on commence à faire quelques réunions, mais il n'est pas né du tout. Mais c'est vrai que c'est un projet que j'ai vraiment en tête.
C'est aussi parce que Cogent, finalement, était peut-être pas accessible aussi à tout le monde, parce que c'était quand même des prix.
Je ne me rappelle plus exactement. Combien était ce qu'on appelle le ticket moyen, mais ça devait être dans les 12, 13, 14 euros. C'était oui, par rapport à de la restauration dite rapide, ça pouvait paraître cher, mais c'était vraiment
bon.
Ben oui. D'ailleurs, pendant les 18 ans où j'étais là, j'entendais toujours les gens dire, mais j'ai entendu ça des milliers de fois, c'est cher, mais c'est bon.
On en a pour notre argent.
Oui. Vraiment, c'était le cas.
Ouais, vous n'avez jamais lésiné sur les produits, sur la qualité.
Tellement à cheval. On était à cheval, effectivement, quand je parlais de... Enfin, c'est tout pour que les gens soient heureux au travail. Mais on était très, très à cheval sur la qualité. Oui, vraiment.
Quand on vous entend parler pour que les gens soient heureux, vous réalisez quand même que c'est quelque chose qui est quand même assez, assez rare aussi.
Alors, l'ambiance que j'ai vécue, en tout cas... Probablement. Enfin, en tout cas, à ce point-là, probablement. Oui, parce que c'était merveilleux. Vraiment.
Alors, ce livre s'appelle aussi « Nourriture céleste ». Vous y parlez à cœur ouvert du décès de votre mère. Vous êtes persuadé qu'il y a une vie après la mort. Vous expliquez comment vous avez pu, d'ailleurs, vous consoler de cette perte terrible.
Oui.
Pourquoi partager ça dans votre livre?
C'est le but du livre, en fait. Parce que je suis... Il faudrait que je raconte un peu les expériences que j'ai vécues, mais je suis persuadé qu'un contact, alors ça peut paraître un peu ésotérique ou un peu particulier ce que je vais dire, mais un contact avec la personne disparue, ça peut tout changer dans l'épreuve du deuil. Et j'ai fait ce bouquin pour ça. J'ai fait ce livre pour donner espoir aux gens qui sont dans le deuil. Parce que tôt ou tard, on est tous amenés à connaître le deuil. Mmh. Tous. Et je pense que de notre vivant, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus difficile que de perdre quelqu'un qu'on aime. Et je pense donc, je suis même sûr qu'un contact, alors ça, je vais expliquer comment ça se passe, mais avec une personne disparue peut effectivement sauver d'un immense chagrin, parfois d'un désespoir ou pire. Je parle notamment de la médiumnité. Mm-hmm. Effectivement, quand ma mère est partie, ma mère, c'était vraiment le. J'oserais dire l'amour de ma vie. Ma mère, j'adorais ma mère plus que tout. Et quand elle est partie, c'était vraiment le pire moment de ma vie, bien évidemment. Et elle est partie devant mes yeux et d'un AVC. Et le lendemain de l'enterrement, j'ai eu l'idée d'appeler un très très grand médium en Bretagne, très très grand. Et je me rappelle l'avoir appelé. Je savais pas quoi faire quand elle est partie. Je me dis mais ma mère n'est plus là.
C'était un geste de désespoir peut-être aussi à l'époque. Vous étiez convaincu de votre démarche ou vous vous êtes dit bon de toute façon là.
Il me fallait quelque chose. Oui voilà. Et je me rappelle d'avoir appelé ce médium. Je vais appeler en numéro masqué, je déteste ça, mais là je vais appeler en numéro masqué. J'avais dit bonjour, je suis Alain de Paris, j'aimerais bien un entretien avec vous. Enfin, et il me dit oui, très bien. Il ne me connaissait pas du tout, il ne savait pas du tout comment je m'appelais, si j'étais restaurateur à Paris ou coursier à Lyon ou chauffeur de taxi à Marseille, rien du tout. Bref, et il me donne rendez-vous quasiment 2 ans plus tard, ou 18 ou 24 mois. Je lui dis ah. Je dis non, c'est urgent. Et oui, je crois que c'était 18 mois plus tard. J'insiste encore jusqu'au moment où je comprends si j'insiste, il va raccrocher. Bon. Mine de rien, j'ai tenu 18 mois. Et quand je suis arrivé chez cet homme-là, il me dit écoutez, vous voyez à l'époque, vous ne m'interrompez pas. Et puis il explique comment marche la médiumnité. Donc c'est en deux mots, parce que ça serait très long, ça ferait l'objet d'une émission. Mais un médium a des. Ça marche par la clairaudience, la clairvoyance, c'est principalement ça. Et je m'assois en face de lui, il m'explique comment ça marche, et il me dit « m'interrompez pas ». Et puis après quelques minutes de silence et de respiration, enfin, c'était assez impressionnant. Et tout d'un coup, il me dit « Marie-G est derrière ton épaule ». Alors déjà, je lui avais pas dit que j'avais perdu ma mère, bien sûr. Mmh. Je lui avais pas dit qu'elle s'appelait Marie-Germaine et que son surnom, on l'appelait Marie-G. Bon, premier, tiens, je me dis, c'est quand même incroyable. Et après, il m'a décrit, c'est ma mère qui a parlé. Ça paraît évidemment très particulier ce que je raconte. Mais... Et après, ma mère m'a raconté, via ce médium, elle m'a donné énormément de preuves de survie, mais elle m'a raconté notamment, ça a démarré par ça, tout ce que j'ai fait au moment où elle est partie. Elle m'a dit notamment « Oh Alain, tu es arrivé 4 à 4, tu as monté les escaliers 4 à 4 à l'hôpital de Morlaix, tu es arrivé comme un fou à l'hôpital de Morlaix, tu es rentré dans la chambre et tu m'as regardé, tu m'as appelé, je pouvais pas te répondre, alors tu as pris ma main et tu m'as écrasé la main. Mais Alain, tu m'as écrasé la main. » Et j'allais dire, j'étais sur le cul. Et c'était le cas, parce qu'effectivement, quand j'ai appris que ma mère avait eu ce problème de cet AVC, j'ai foncé en voiture, mais comme je n'ai jamais foncé, je me suis garé n'importe où, enfin bref, j'ai monté l'escalier 4 à 4, je suis rentré, j'ai couru dans les couloirs, je suis arrivé dans la chambre en courant, j'ai appelé ma mère, elle ne répondait pas, mais ça paraît bête, mais le fait de dire « maman », première fois qu'elle ne me répondait pas. Ça paraît bête, mais je me dis « maman ». Et le médecin derrière me dit, sans prendre de gants, il me dit « Elle vous entend plus, ça sert à rien, vous entend plus, parce que hémorragie cérébrale, elle vous entend plus. » Elle était dans le coma. Mais moi, je savais très bien que dans le coma, on peut entendre sans les oreilles, voire sans les yeux. Et à un moment, effectivement, j'ai pris sa main, et j'ai écrasé sa main, mais de toutes mes forces. Je dis « maman », je me dis « va ». Bêtement, je me dis, elle va peut-être avoir une réaction. J'ai écrasé sa main. Et donc, presque 2 ans plus tard, ma mère me rappelle cette scène. Or, c'est une scène parmi des dizaines et des dizaines. Cet exemple-là, mais il y a tellement d'autres exemples. Ouais.
En tout cas, les contacts effectivement que vous avez pu avoir avec elle.
Beaucoup de contacts, étaient magnifiques.
Ce sont des contacts voilà qui vous ont apaisé finalement aujourd'hui. Oui. On peut dire que vous vivez un deuil apaisé.
Oui, ça m'a fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de ça dans le livre parce que ça fait du bien quand on est dans le deuil et je pense que un contact avec une personne aimée disparue peut faire un bien inouï à quelqu'un qui souffre du deuil, de la disparition d'un proche. Voilà.
Alors Alain Cogent, je termine toujours ce podcast par cette interview dans l'interview. C'est l'interview des clics et c'est parti. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait se lancer?
Alors déjà, je vois souvent des jeunes qui viennent me voir et quand j'entends le mot conseil, je suis toujours embêté parce que je trouve ça ferait prétentieux de dire conseil. Donc je donne souvent me demander conseil. Je préfère parler d'avis ou de quand parler d'un projet. Moi, en tout cas, quand je rencontrais ça m'arrivait très souvent de rencontrer des jeunes qui voulaient se lancer, notamment dans le food, dans la restauration. Alors, j'insistais beaucoup sur l'indépendance. Je dis, si possible, ne pas prendre de fonds d'investissement, avec le respect quand même j'ai pour les gens qui m'ont aidé. Si possible, ne pas faire entrer un financier de métier. Si possible. Et en tout cas, il y a des gens très bien, hein, quand même. Mais en tout cas, garder ce que j'ai fait moi pendant 20 ans, garder le contrôle, garder la majorité, garder 51%. Ça, oui. Alors là, on peut dire c'est un conseil. Garder la main, garder 51% du projet. Parce que oui, ça, c'est un vrai conseil.
Ça vous a préservé pendant ces 20 ans d'expérience. Quel conseil auriez-vous aimé avoir, vous, au début de votre carrière?
Ah, bonne question. Je ne sais pas quel conseil, parce que j'ai fait les choses tellement naturellement que j'aurais fait les choses de toute façon telles que je le sentais. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question.
Bah, finalement, ça colle bien à votre parcours, hein, puisque effectivement, quand on lit votre livre et qu'on regarde un peu comment vous avez lancé votre entreprise, effectivement, pour vous, le projet, il était là. Hein. Personne n'aurait pu vous empêcher de le faire.
Oui, c'est ça.
Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir à vos côtés
J'avais cette foi de... Je ne sais pas si j'aurais eu vraiment besoin d'un mentor.
Vous étiez bien entouré, en tout cas.
Oui, j'avais Fred, mon ami Fred, qui a démarré avec moi, dès le premier jour, même avant d'ailleurs. Et après, on a eu la chance d'être accompagné par des gens fantastiques. Et tout de suite, Juliette notamment, directrice qualité, qui était fantastique. Angèle, Omar Clétine. On a eu énormément de gens fantastiques, comme ça, qui nous ont accompagnés dès le début.
Un entrepreneur que vous admirez plus que tout aujourd'hui?
Alors, ça va vous paraître cucu, mais alors, ça peut être une personnalité disparue. Oui. J'ai une certaine passion pour l'abbé Pierre.
Pour son dévouement.
Oui, puis pour sa pugnacité. Sa pugnacité, oui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si...
Alors... Je ne peux pas m'empêcher tout d'abord de parler de ma mère. Parce que ma mère m'a toujours soutenu, même quand j'avais des très mauvais bulletins scolaires. Et même après, m'a toujours soutenu. Donc je dirais, ma mère a été l'élément central. Ensuite, ce que j'ai fait dans ma, j'ose pas dire carrière, mais dans mon parcours professionnel. En fait, je me suis mis à bosser dur après l'école. Et à l'école, je ne foutais pas grand-chose. Et j'ai peut-être, vis-à-vis de mon père, j'ai voulu peut-être prouver que j'étais pas nul. Et c'est là que je me suis mis à bosser après, peut-être.
Et d'ailleurs, votre père, quand il a vu quand même tout ce que vous aviez fait avec Cogen, il s'est dit, ah bah mince, alors je me suis trompé sur toi. Tout ce que tu as fait, c'est
alors, c'est marrant parce que là aussi, ça va paraître très étrange. Mais ces paroles-là, je les ai entendues après son départ.
Donc, il voulait, de son vivant... Il ne vous l'a pas dit. Il n'était pas impressionné quand même par votre entreprise.
À la fin, quand il y avait beaucoup de restaurants, ça marchait fort. Il était quand même assez âgé, très âgé. Donc il voyait pas. Bon, il voyait que j'ouvrais des restos, mais ça l'avait pas forcément. Je dirais, ce n'est qu'après que j'ai eu des compliments. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que les deux médiums que j'ai rencontrés me disaient exactement les mêmes choses, les mêmes mots. Donc c'était vraiment un vrai message de sa part.
Votre plus bel échec, hein.
Ah. Échec ou regret?
Échec.
Parce que regret, j'aurais pu vous le dire.
Bon, allez, regret, on va changer la formule.
Oh, allez, on change la formule. Dans ma vie, d'une manière générale, j'ai pas honte parce que j'y pensais ces temps-ci, ces jours-ci d'ailleurs. Un regret, c'est de pas avoir d'enfants. J'aurais aimé avoir des enfants.
Ah oui, parce que vous l'auriez transmis.
J'aurais aimé.
Je pense pas mal de choses.
Bon, maintenant, me dites, c'est un petit peu tard.
Les livres qui vous ont inspiré?
Ah, alors c'est drôle parce que je n'ai pas lu pendant mes 20 premières années. C'est drôle, même après d'ailleurs. Ça inquiétait beaucoup ma mère d'ailleurs et mon père, enfin surtout ma mère. Je lisais que Tintin. J'étais Tintin et Milou. J'adorais ça. Mon frère et ma sœur lisaient beaucoup. Ils étaient et moi, il y avait que les Tintins qui m'intéressaient. Donc je lisais pas quand j'étais enfant et adolescent, très peu. Ce n'est qu'après. Et curieusement, c'est surtout après le départ de ma mère que j'ai beaucoup lu et je lis beaucoup depuis. C'est beaucoup de livres sur
la spiritualité.
Oui, la spiritualité. Sur oui, c'est principalement des livres sur la spiritualité ou alors des livres sur des parcours ou des gens qui voient un peu les choses peut-être un peu différemment. Ou... Voilà.
Alain Cogent, le temps est un bien précieux. On sait que vous avez donné corps et âme à votre entreprise, hein, parfois même jusqu'à y perdre presque la santé. Hein. Comment bien le gérer ou en garder un peu pour soi?
Alors là, je ne suis pas du tout de bon...
En
tout
conseil,
cas, enfin, en tout cas, je ne suis pas un bon modèle du tout, du tout. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que je ne mettais pas de limite. J'avais pas de limite, je pouvais, j'avais pas une soupape qui me disait tiens là bon t'es crevé là il est temps d'aller rentrer chez toi ou va te reposer ou va faire du sport ou autre. Évidemment que ça marchait pas comme ça, j'étais à fond tout le temps. Donc je suis pas un bon modèle pour.
Enfin, quand même à un moment donné vous avez entendu, vous avez vendu,
oui.
Et vous avez dit je vais consacrer.
Il y a presque 5 ans déjà.
Après 20 ans de travail acharné.
Oui.
Que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, qui ont envie, comme vous, d'avoir de l'impact, mais qui ne savent pas comment?
Par rapport à l'entrepreneuriat, d'une manière générale?
Oui, ou même dans sa vie, on va dire.
Alors, encore une fois, c'est un conseil, non, j'aime pas trop donner conseil, mais j'aurais tendance à dire de s'écouter, de pas forcément écouter ceux qui vont dire « Oh là là, non, ça c'est très dangereux, c'est risqué, c'est ceci, c'est cela. » Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Oh là là, non, non, c'est risqué. Faut peut-être écouter sa petite voix intérieure, je dirais.
Que vous avez toujours écouté, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup, en tout cas, Alain Cogent, de nous avoir accordé ce temps. Puis je vous souhaite une belle continuation pour tous vos projets.
C'est très gentil.
Merci. Continuera dessus.
Merci de m'avoir reçu.
C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à David Fureur pour la réalisation. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à parler de nous et à nous noter. Grâce à vous, les auditeurs, Impact Positif s'est développé. En plus des réseaux sociaux, Twitter et Instagram, vous nous retrouvez sur lci.fr, sur une page spécialement dédiée à Impact Positif. À très vite pour un nouveau numéro du podcast.